grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous dans ce studio avec moi, Baloufou Bakoupa Kaninda. Il est écrivain, poète, il est également cinéaste et donc c'est lui notre grand témoin de ce dimanche 9 février 2014. Avec lui dans notre émission, nous allons parler de son parcours professionnel, de son parcours de cinéaste, des différents films qu'il a réalisés. Monsieur Baloufou, bienvenue dans le studio des Radio Capi.
Merci.
Ça fait plaisir de vous recevoir dans ce studio. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes en Europe déjà?
Plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies, mais je suis également, je viens énormément à Kinshasa presque tous les 3 mois. Je viens au Congo.
Mais vous avez décidé de faire votre vie en Europe, de vous installer en Europe?
Non, j'ai pas décidé. Non, ce sont les aléas de l'histoire. Je suis parti pour un exil culturel, donc pour apprendre. Et j'ai dû...
Pour apprendre quoi?
Ben, d'abord, pour apprendre le métier que je fais, c'est-à-dire le métier de cinéaste. Mais ma base, c'est la sociologie. Hein, donc, j'ai d'abord fait l'université en sociologie, la sociologie de l'imaginaire, un peu de philo, un peu d'histoire,
beaucoup
de photographie. Oui, en Belgique, en France, en Angleterre et aux États-Unis.
Alors, vous êtes né un certain 30 octobre 1957 à Kinshasa.
Ouais, je suis né à Matongé. Je suis né Riboleko numéro 2 à Matongé. Je suis né dans une maison, ce qui est un privilège.
Donc vous êtes vraiment monakin, quoi. Vous connaissez bien les réalités de Kinshasa.
Ben, on est du pays où on est né, hein. Donc mon pays, c'est Kinshasa d'abord, hein. C'est là où j'ai vu le jour.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
Oh, de très bonnes conditions.
C'est-à-dire?
Avec des gens assez notables, assez fiers d'eux, dans un environnement très intellectuel, très politique aussi, des commerçants, des gens qui ont fait l'histoire.
Oui. Et c'est d'une bonne famille?
Oh, j'ai pas des critères pour juger une famille qui est bonne ou pas. Non, c'était la mienne et j'en suis fier.
Ouais. Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant que vous grandissiez?
Le souvenir qui m'a le plus marqué, je pense que j'ai une vague souvenir de moments de tristesse quand, dans les années 60, mes parents vont devoir quitter Kananga, donc Lualaba à l'époque, pour aller à Boujimaï. Mais bon, voilà, j'ai un vague souvenir de ces moments tristes où un peuple se déchire.
C'est-à-dire, voilà. Expliquez-vous, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu cette époque, qui veulent comprendre.
Dans les années 60, il y a eu de guerres fratricides dans le Kassai, qui a divisé le Kassai en deux. Donc mes parents ont dû quitter le Loirbourg, où ils avaient leur vécu, pour retourner à Boujimaï, où ils avaient pratiquement...
Vous étiez avec eux?
J'avais 3 ans.
Vous êtes né à Kinshasa, puis vous êtes allé à Kananga.
Oui. Je suis né à Kinshasa de parents habitant Lualaba à l'époque.
Marié, père de combien d'enfants?
Qui?
Vous?
Non, je suis pas mariable.
Pourquoi?
C'est mon choix.
Vous estimez que vous n'êtes pas mariable?
Non, je me sens bien comme ça. J'ai 3 garçons et une fille. Ça me va comme ça.
Ah, vous avez au moins des enfants?
C'est pas une obligation ni d'avoir d'enfants.
Non, je dis pas que c'était une obligation, c'est juste une question.
Ouais, non, mais je suis père de 3 garçons et une fille. Mais je suis célibataire, ouais.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que j'aime pas dans la vie, je pense le crétinisme, la sournoiserie. J'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. L'injustice me fait souffrir profondément. Parce que je pense que l'injustice, sans justice sociale, il n'y a pas de paix. Ni de paix de cœur, ni de paix de conscience.
Est-ce que vous avez déjà été victime d'une injustice?
Non, le monde est fait de petites et de grandes injustices. Nous les subissons. Vous savez, une injustice, ça peut être aussi une question de subjectivité et d'appréciation. Mais nous vivons un monde où les injustices priment, et surtout dans nos pays sous-développés. Le sous-développement est le vrai lit de l'injustice. Parce que la redistribution n'est pas faite à part égale et avec une appréciation assez juste de la majorité de la population.
Alors, Baloufou Bakoupa Kaninda, c'est votre nom, vous n'avez pas de prénom?
Mon prénom, c'est Baloufou.
Baloufou, c'est un prénom?
C'est mon prénom.
Ah bon?
À moins que vous m'en inventez un autre, mais c'est mon prénom.
Et donc, le nom, c'est Bakoupa Kaninda?
Bakoupa Kaninda, c'est mon nom.
Baloufou, ça ressemble plutôt à un nom qu'à un prénom. Ça a une signification particulière?
Non, c'est mon prénom, c'est... Je cherche pas à poser
de questions. Ce sont vos parents qui vous l'ont donné?
Bakoupa Kaninda, est le frère de Baloufou. Normalement, je suis Bakupa Kaninda Waba Baloufou, le frère de Baloufou. Voilà. Par manque de place à l'état civil en Europe, donc on a coupé Baloufou. Prénom. Et ça me va ainsi.
Vous êtes écrivain et poète. J'imagine que vous avez fait des humanités littéraires gréco-latines.
Oui, non, mais je pense que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de littérature, de latin. J'ai fait du grec après à l'université. Mais j'ai été beaucoup amoureux des mathématiques. Je suis un bon mathématicien. Parce que les mathématiques, c'est comme la philo. Ça permet de procéder et de poser le langage. Les mathématiques, c'est formidable. Alors, j'adore les mathématiques.
Fallait être physicien, je sais pas moi, ou que de choisir de devenir poète, écrivain.
Non, j'ai préféré soigner l'imaginaire. Vous savez, les peuples ne sont pas faits de chiffres. Le peuple qui émerge aujourd'hui, les peuples qui vivent bien, sont faits d'utopies, de rêves. C'est quand un peuple porte de rêves, c'est quand un peuple partage sa poésie qui peut appréhender son avenir. Quand nous regardons aujourd'hui notre peuple, c'est un peuple fait de chiffres. Nous avons une relation malsaine à l'argent. Et cette relation malsaine à l'argent corrompt.
Attendez, ça veut dire quoi une relation malsaine à l'argent?
Malsaine, qui est mauvaise.
Mauvaise comment? On a besoin d'argent pour vivre, non?
Mais oui, mais avoir besoin de l'argent, c'est autre chose. C'est autre chose, mais avoir une relation malsaine à l'argent, c'est-à-dire penser que l'argent prime sur tout. J'ai l'impression que dans notre pays, toute relation est monnayable. Il n'y a pas d'émotion dans les relations.
Il n'y a rien pour rien, Monsieur Baloufou.
Mais non, ne soyez pas si simpliste que ça. Le monde est complexe. Mais au cœur du monde, il y a l'utopie, il y a le rêve, il y a l'émotion. Il n'y a pas que des chiffres. Vous savez, on ne peut pas vivre au-dessus de ces moyens. On a besoin des moyens pour vivre. Et on a besoin d'avoir ces moyens dans la justice sociale. Dans la justice sociale. Mais on ne peut pas faire primer toute relation que par l'argent.
Vous avez fait la poésie?
Mais je n'ai jamais quitté le domaine de l'imaginaire. Je suis toujours dans le même domaine. La poésie, la littérature, le théâtre, les cinémas, c'est la même maison.
C'est quelque chose que vous avez aimé depuis que vous êtes enfant, la littérature?
Oui. Mais je viens d'une maison où on a lu beaucoup. Je pense que dans mon adolescence, j'avais déjà lu presque toute la bibliothèque des classiques français. Actuellement, depuis 20 ans, je ne lis que les Africains. Je ne lis que la production africaine, qui est formidable. Ce continent a produit le meilleur roman du XXe siècle. Des grands écrivains du XXe siècle sont africains. Et c'est une littérature fraîche. C'est une littérature très humaniste. C'est pas une littérature marchande. La littérature africaine est verte des émotions inépuisables. C'est une littérature formidable.
Littérature formidable, mais on a l'impression que les gens s'intéressent plus à la littérature européenne qu'africaine.
Oui, mais ça c'est le malheur.
L'impression qu'on a.
Oui, mais ça c'est le malheur des colonisés. Les colonisés aiment leur maître. Ils aiment leur maître jusqu'au mimétisme. Donc voilà. C'est les colonisés, c'est ça sa maladie. Il faut arriver à opérer le colonisateur qui reste dans le mental du colonisé. Donc il pense que chez lui ça va pas. Nous avons l'un des plus beaux pays au monde. Nous avons la plus belle lumière au monde. Nous avons le plus grand fleuve du monde. Nous avons un peuple merveilleux. Nous avons une histoire de grandeur, une histoire merveilleuse, une histoire d'homme. Faites de peine, faites de gloire, faites de ups and downs. Ça, c'est notre histoire. Nous devons en être fiers. Moi, je viens en Europe depuis 4 décennies. Je suis Congolais. Dieu a fait de moi un Congolais, né à Matongé. Dieu ne m'a pas demandé de devenir Français, ni Américain, ni Belge. Les trois nationalités.
Et depuis les 4 décennies, vous n'avez pas changé de nationalité?
Non, j'ai pas
vous
besoin. Restez Congolais. J'ai pas trouvé mieux que le Congo.
Mais revenez vous installer au Congo, pourquoi
mais
vous êtes
mais en Europe? Je suis plus que vous. Je suis tous les 3 mois. Et mon travail.
Oui, vous venez pour rentrer en Europe. Non, venez vous installer carrément ici. Non.
Mon travail, si je vous dis qu'en 5 semaines, j'étais dans 6 pays, vous n'allez pas me croire.
Je sais que vous voyagez beaucoup.
Donc, mon travail, c'est fait en enseignant. J'appartiens à une université qui est l'Université de New York, la NYU, qui a 32 campus dans le monde.
Vous enseignez le cinéma?
Le cinéma, la structuration narrative. Donc, j'ai des engagements, je suis président d'une association de cinéastes, j'ai des engagements à ce niveau-là, j'ai des engagements professionnels par rapport à mes camarades, mes confrères et mes consoeurs, j'ai des engagements que je me suis donné moi-même ici. Depuis 6 ans, je forme des jeunes ici, donc dès que j'ai du temps libre, je viens ici, je travaille avec eux, là je suis en train de les produire. Vous savez, je ne connais pas des dimanches.
Vous n'avez pas de repos, donc vous travaillez 7 jours sur 7.
Oui, c'est formidable. Et
c'est
ça
fatigant,
qui... Non, ça rend la vie très douce. Vous savez, travailler, c'est un projet. C'est d'amener un projet à sa fin et prendre un nouveau projet. Travailler, c'est pas aller au bureau. J'ai pas une éducation de fonctionnaire. Donc, travailler, pour moi, c'est élaborer un projet avec les autres et l'amener à bon port. Et prendre un nouveau projet, ainsi de suite.
Vous avez quitté le pays en quelle année déjà?
Oh, ça s'est passé à plusieurs périodes, mais la dernière fois que j'ai quitté le pays, c'est en 81.
Non, parlons de votre exil, 81, ouais, exil culturel, ouais, comme vous le dites vous-même,
oui,
en 81. Là,
oui,
c'était après vos études
humanitaires. Non, mes études secondaires, je les avais terminées 4 ans avant. Je suis revenu à Lubumbashi de 79 à 81. J'étais attaché au Centre culturel français de Lubumbashi, où j'avais en charge le programme de cinéma. Mais en même temps, la raison principale que j'étais là, c'était pour faire un travail de recherche sur la mort dans le Katanga. Donc durant 2 ans, avec un budget assez important, c'était... Je pense que c'était le budget le plus important culturellement parlant de la région. J'ai visité tous les Katanga en entier. Et j'ai filmé et photographié presque tous les cimetières du Katanga.
Un travail de recherche sur la mort.
Sur la mort, la mort, la mort, la mort.
Qu'est-ce que vous recherchiez?
La vie.
Merci pour la réponse.
Oui, la vie. Vous savez, la mort est un beau rendez-vous. Parce que c'est le rendez-vous le plus fidèle. Parce que nous vivons pour mourir. Il faut pas appréhender la mort avec la peur. En fait, on a peur de nos petites dettes, de ce qu'on laissera pas bien. Mais la mort, elle est là. Elle est là. Il faut pas en avoir peur. Il faut avoir peur de quelque chose qu'on connaît pas. Mais la mort, elle est là. Elle est là. Il faut seulement comprendre que nous devons y aller le front droit. C'est tout. On peut pas y échapper. Tout de même, personne ne sortira vivant d'ici. Donc, comprendre la mort, c'est comprendre la vie. Et dans notre société, et surtout, si on prend le Katanga qui est traversé par 4 grands courants culturels, les Baluba, les Lunda, les Bemba et les autres, mais qui sont un même peuple en fait. C'est là on comprend. C'est pas la coutume de l'enterrement qu'on retrouve le peuple, qu'on trouve le point commun d'un peuple. Donc la mort, c'est quoi? C'est voilà comment on enterre un jumeau, comment on enterre un fils aîné, comment on enterre une femme qui n'a pas eu d'enfant. Tout ça, c'est ça la philosophie de la mort, c'est ça la sociologie de la mort qu'on appelle l'estacologie.
Alors Baloufou, on a contacté quelqu'un qui vous connaît bien, avec qui vous avez grandi, en tout cas qui connaît tous vos petits secrets. Hein. Il est en ligne avec nous. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Cache l'honneur, s'il vous plaît.
Parfayav.
Alors, Monsieur Parfayav, nous sommes dans ce studio avec Monsieur Baloufou Bakoupa Kanunda, que vous connaissez depuis très longtemps.
Très, très longtemps. Un ami d'enfance, un frère, pour ainsi bien dire.
Non, c'est mon meilleur ami. Je suis ami.
Ah, c'est votre meilleur ami. Ah, donc on l'a tapé juste.
Lui, il me manque beaucoup. Quand je suis loin du pays, il me manque. Je suis ému.
Il est très ému, c'est vrai. Parfait, vous ne pouvez pas le voir. Moi, je le vois dans ce studio. Il est vraiment ému, quoi.
Je suis aussi, parce que tant bien la distance nous sépare, aussi proches sommes-nous.
Oh là là.
Merci beaucoup.
Ça fait chaud au cœur. Ouais. Alors, Parfait, vous dites que c'est votre ami d'enfance. Comment vous êtes connu?
Un frère
d'enfance. Vous êtes connu à Kinshasa, Lubumbashi ou ailleurs?
À Kinshasa, on se connaissait déjà comme ça, mais il s'est fait qu'on s'est retrouvé à la même école, à Lisanga, dans la même classe. Et alors, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on n'a pas su faire ensemble. Hein.
Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait ensemble?
Tu racontes rien.
Racontez-nous, s'il vous plaît.
Oh, tant de choses que l'émission risquera d'être courte, pour tout dire.
Juste un peu. Vous avez dérangé ensemble, vous avez dragué les filles ensemble.
Il avait la plus belle collection de reggae.
Que culturel. On a partagé la musique surtout ensemble, des belles chansons d'époque. Et en lui-même, parmi tous les amis, Baloufou a toujours été un marginal. Et il restera un marginal. C'est quelqu'un, il est lui. Difficile de le pénétrer parce qu'il est lui. C'est quelqu'un qui a toujours... Et vous serez étonné pour quelqu'un qui est dans la cinématographie. Mais c'est quelqu'un qui a fait maths physique.
En plus.
Oui, en plus. C'est vraiment pour vous dire qu'il sort du commun des mortels.
Alors, c'est un ami d'enfance. Il est quel genre de personne difficile à pénétrer, vous l'avez dit. Est-ce une qualité ou un défaut?
Les deux, non, c'est pas un défaut. Parce que c'est quelqu'un d'abord qui est très relationnel. Il aime bien parler. Il aime aussi s'entendre parler. pour mieux exprimer ce qu'il a en soi. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un bon cœur, qui est unificateur. Je n'ai pas connu quelqu'un qui ait pu avoir un quelconque problème avec lui.
Donc il n'avait pas de problème avec...
Quand on parle de
c'est
lui...
C'est un homme qui n'a pas de problème avec les gens.
Il y a la vie. Tel qu'il vous a dit, on a à peu près la même philosophie. On prend la vie telle qu'elle est.
Du bon côté.
Et ce sont les choses les plus simples qui sont les plus faciles.
Ouais. Alors là, vous nous parlez de ses qualités, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas en lui ? Son mauvais côté, c'est quoi que vous détestez ?
Je ne pense pas qu'il a un mauvais côté. Le seul mauvais côté dont je pourrais lui dire, c'est qu'il arrête de fumer.
Ah, c'est un conseil.
J'ai essayé en regardant les cigares. J'ai essayé.
Vous ne l'avez pas arrêté ?
J'ai fait une rechute, mais c'est vrai, il a raison. Il a raison, j'essaie
qu'il faut
que j'arrête.
Vous allez suivre le conseil de Parfait.
Que j'arrête de fumer, que je perde un peu du ventre et que j'ai un peu plus de jours de congé.
C'est une promesse, Parfait, Yav. Il vous promet...
On est là pour voir, mais on ne lui souhaite que du bonheur et que, bon, il fait la fierté quand même du peuple congolais. Il nous représente c'est notre ambassadeur à travers le monde, à travers ses films... Et bon, ben, c'est toujours encourageant, et lorsqu'on est devant une salle et qu'on voit un de ses films, on dit, ben, c'est mon frère, c'est moi.
Et vous surtout, vous vous dites, c'est mon ami, c'est mon frère.
Non, mais surtout, lui, il est venu avec toute sa famille voir mon film quand il est sorti en Afrique du Sud, à Sandtown. Et ça, c'était une très grande fierté pour moi.
Oui.
Alors, on va pas vous prendre beaucoup de temps, monsieur Parfait, mais avant de vous libérer, j'aimerais bien que vous puissiez lui dédier une chanson. On va fêter ça.
La chanson que je vais lui dédier, c'est une chanson de Lamont Dozier que tu connais, Going Back to My Roots. Parce que je te sais très attaché à tes racines.
Ah, très bien. Going Back to My Roots.
Il vous connaît
Qu'est-ce
bien.
Qu'est-ce qu'on n'a pas dansé
Il
sur cette chanson?
Il vous connaît bien, ce Parfait, hein.
Ah oui, ça c'est, d'abord c'est, maintenant, pour moi, c'est une grosse surprise. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui me manque souvent. Parce que plus on prend de l'âge, plus on revient vers sa terre, plus on revient vers ses souvenirs de jeunesse, d'enfance. Et lui, c'est la plus belle rencontre de ma jeunesse. On est des gens qui aiment beaucoup le reggae, le vrai reggae dans toute son histoire. Et on a fait beaucoup de fêtes. Et on a beaucoup rigolé. Et,
j'imagine que vous dansez aussi bien.
Et lui, il avait quelque chose de plus. Il avait un de plus grands cuisiniers que je connaissais dans la ville. Mais surtout, il a une mère et un père adorables. C'est vraiment des gens avec qui tu peux te confier, tu peux avoir un dialogue. Mais des gens adorables. Quand je vous dis adorables, c'est presque d'une préciosité.
Merci. Vous avez envie de revivre ce moment de jeunesse, passer ensemble?
Et pourquoi pas?
Si c'était possible.
Je ne sais pas, on est restés des éternels enfants. Ouais.
Ah, jusqu'à ce jour, j'imagine.
Oui,
vous éclatez de rire lorsque vous vous rencontrez.
Ouais.
Ben, en tout cas, merci d'avoir pensé à moi.
Ah, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté.
Vraiment formidable, parfait.
Et j'espère qu'on va se voir à Kin quand même.
Dans quelques jours, je vais me libérer.
D'accord.
Alors c'est promis, vous allez vous voir. Merci beaucoup, Parfait, Yavé. Bonne journée chez vous.
À bientôt, Parfait.
Alors, Hérité, tu vas nous faire plaisir. On va poursuivre notre entretien après cette petite pause musicale pour parler de vos débuts dans le cinéma et qui vous a inspiré dans le cinéma. C'est juste après cette pause.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kélin Kouté sur Radio Okapi.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Baloufou Bakoupa Kaninda. Il est écrivain, poète et cinéaste. Parlons de vos débuts dans le cinéma, Baloufou Bakoupa. En 81, vous quittez la RDC pour aller en Europe, suivre des études
sociologie. C'est ma base, la sociologie. Donc je fais la sociologie avec deux diplômes mineurs, donc trois mineurs. Philosophie, histoire et histoire de l'art. Et moi, je suis un passionné de l'histoire. Et en fait, je suis devenu cinéaste pour raconter l'histoire de mon pays. Je suis devenu cinéaste pour ça.
Quelqu'un vous a inspiré ou quelqu'un vous a poussé à faire le cinéma pour parler de votre pays?
L'histoire de mon pays, j'ai vécu avec des gens, comme je vous disais, qui étaient aussi au centre de l'histoire. J'ai vécu avec des gens qui parlaient beaucoup de l'histoire. D'ailleurs, quand j'ai fait mon serment d'intention à l'école de cinéma, j'ai dit que je vais devenir cinéaste pour parler de Kimbangu et de Lumumba.
Donc, vous n'aviez pas peur de vous lancer dans le cinéma?
Non. Le cinéma est un métier merveilleux. C'est le bonheur parfait. Vous savez, quand vous regardez, vous êtes dans une salle avec d'autres personnes devant un écran de 12 mètres de base et que vous regardez un beau film, vous êtes heureux pour une semaine en attendant le prochain beau film. Vous savez, un peuple qui n'a pas de cinéma, il est dans le cas de notre peuple. Il est dans le même cas que nous, dans une sorte d'empilage d'identité qui s'entrechoque. Parce que, de quoi est peuplé l'imaginaire de Congolais? De quoi est peuplé l'imaginaire de nos enfants? De la musique? Uniquement de la musique? Y a-t-il de la littérature, de la poésie dans cet imaginaire? Mais tout ça, le cinéma l'apporte en même temps. Le cinéma peut apporter la musique, la littérature, la poésie, la beauté. Parce que le cinéma, c'est un art de la beauté, c'est un art de l'espérance. Personne au monde ne rêve d'être pauvre. Et le cinéma ne permet pas de rêver pauvre. Le cinéma rêve de rêver grand et de rêver beau. Et ça, c'est un art parfait. C'est l'art majeur, c'est l'art global. Même en termes de communication, c'est la communication globale. Donc moi, j'ai fait un très bon choix. J'ai fait un très très bon choix. J'aurais pu être un ingénieur, j'aurais pu être médecin. Mais c'était petit.
C'était petit.
Moi, je voulais soigner les esprits. Je voulais parler à l'imaginaire. Moi, j'aime raconter des histoires. Comme a dit mon ami parfait, moi, j'aime raconter des histoires.
Mais cette peur de... On se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je serai accepté?
On est un excellent étudiant, ça marche. Les écoles de cinéma sont des réseaux. Non. Et puis, j'ai pas été dans des systèmes qui fabriquent les chômages. Des écoles qui fabriquent des chômeurs, il faut les fermer. Et puis, j'enseigne dans un système où on fabrique pas de chômeurs. Hein? Une école, une université qui fabrique des chômeurs, il faut qu'elle ferme. Donc, si vous vous tapez à des bonnes portes, non. C'est difficile quand on ne fait pas ces métiers dans son pays, quand on les fait à l'étranger. Parce qu'il y a dans les cinémas une part de la représentation d'un pays, d'une nation. Quand on les fait à l'extérieur, vous savez, quand vous avez besoin de 5 millions de dollars et que quelqu'un vous donne cet argent, il a son mot à dire. Parce que c'est pas de l'argent qu'on vous donne, c'est on vous donne pour fabriquer un film. Fabriquer un film qui va être vendu. Donc, il a ce mot à dire. Et surtout, si vous voulez faire un film sur votre histoire, lui, il a ce mot à dire.
Un constat, Baloufou, la plupart de vos films, on a l'impression que c'est pour la consommation extérieure. En RDC, si vous demandez à un jeune aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, par exemple, quel film, Le Damier ou Papa Oye de Baloufou?
Oui, c'est vrai, il n'y a que les initiés. Il n'y a que les initiés qui connaissent, il n'y a que les gens bien éduqués qui connaissent, c'est-à-dire culturellement parlant. Mais je dis tout simplement, est-ce que dans ces pays, de quoi...
Est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes?
Non. Parce que de quoi est peuplé l'imaginaire de Congolais? D'une dombolo. Il n'y a pas de place pour la... Il n'y a pas. Et seulement, par exemple, l'année dernière...
Il n'y a pas de place, il faut trouver, il faut créer cette place.
Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, je viens ici, je suis au service de mon pays, je suis à disposition. Moi, je paye pour travailler pour mon pays. Et j'aime ça. Et j'ai la chance d'être ami depuis 32 ans avec le ministre Banzamukalai. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de cinéma à Lubumbashi en 1980. Donc, lui, il est politique. Moi, je suis cinéaste. Donc, nous nous sommes rencontrés pour mettre en place la création du Centre de la cinématographie congolaise. Centre national de la cinématographie congolaise. Nous avons travaillé sous son leadership. Nous avons sorti un décret de création qui est sur son bureau. Et on attend. Tous les gouvernements sont conscients, le Premier ministre, le Président de la République, que nous devons nous doter d'une politique de l'image. Tout le monde est conscient de ça. Le Président est d'accord, le Premier ministre est d'accord, le ministre de la Culture a le projet sur sa table, parce qu'un pays qui n'a pas de cinématographie, c'est un pays qui ne voit pas son image dans son propre miroir. Dans son propre miroir. Donc ça participe à notre trouble d'identité. Ça participe à notre déficience de dignité et de fierté. Parce que nous n'avons pas dans notre propre miroir notre propre image. Nos imaginaires ne sont peuplés que de musique et de musique. Et ce sont des musiques de variété populaire. Même pas des musiques savantes.
Mais c'est là que vous devez intervenir, vous cinéastes.
Mais je viens de vous le dire. Donc nous travaillons sur le cadre. Donc l'État congolais va créer le cadre. Parce que le cinéma, c'est un art politique. C'est aussi un art national. Il faut d'abord que le gouvernant puisse fixer son désir d'avoir une politique de l'image. Ah, quelle image nous avons de nous-mêmes? Quelle image nous donnons à l'extérieur? Et quelle image nous voulons que le monde entier ait de nous? Ça, c'est le cinéma qui le crée. C'est là la cinématographie, le rôle de la cinématographie. Croyez-moi, le cinéma, c'est pas un art de divertissement. Les gens, ils ont peur de l'Amérique. Ils ont peur de l'image de l'Amérique dans le cinéma. Beaucoup de gens de ma génération ont tout d'un coup vu tout chinois comme dangereux, comme maître des arts martiaux, parce qu'il y a eu Bruce Lee. Hein. Donc, quel est le héros congolais? Il n'existe pas.
Qu'est-ce que vous voulez présenter? Qu'est-ce que vous présentez dans votre cinéma? D'abord, comment vous qualifiez votre cinéma, Baloufou?
Selon les critiques, c'est du grand cinéma. C'est un cinéma poétique. Vous savez, la poésie n'a pas besoin de mots. Quand il s'agit de l'image, elle a besoin de lumière. C'est la lumière qui crée l'émotion. Vous savez, les gens dans la rue, ils vont vous dire « je suis photogénique ». Non, personne n'est photogénique. Tout le monde l'est. C'est la lumière qui crée la photogénie. C'est la lumière qui crée la beauté. La beauté n'est pas dans l'objet, elle est dans le regard. Donc le regard est culturel. Hein? C'est que vous trouvez laid, quelqu'un d'autre va le trouver beau. Nous sommes tous beaux. Et c'est ça que nous devons dire à notre peuple. Parce qu'on est même dans une culture où il n'y a pas de compliments. Non, nous devons dire à nos enfants qu'ils sont beaux. Nous devons nous dire à nous-mêmes que nous sommes beaux et grands. Parce que Dieu nous a fait le cadeau du plus grand pays, du plus beau du pays. Un pays qui n'a pas de cinéma, c'est un pays qui court vers le froid abîme.
Alors la plupart de vos films, c'est des courts-métrages.
Non, de longs, je fais tout. Du documentaire, de longs.
Vous avez commencé d'abord par des documentaires.
Je fais tout. Je suis...
Dans vos débuts, c'était d'abord par des documentaires
Oui, parce que j'ai beaucoup écrit sur le cinéma. J'ai beaucoup écrit. Donc, comme je vous parlais de la sociologie de l'imaginaire, j'ai beaucoup écrit sur l'image du noir dans le cinéma. Vous savez, le cinéma est né 10 ans après la conférence de Berlin. Conférence de Berlin 1885, février, ça prend fin. Le cinéma, caméra de chez Louis Lumière, 10 ans après. Et c'est avec la caméra, le cinéma, que les colonialistes, surtout les publicistes de la colonisation, ont trouvé l'arme qu'il fallait pour pénétrer les mentalités populaires en Europe. Parce que toute l'Europe, toutes les opinions européennes n'étaient pas colonialistes. Il fallait convaincre. Le cinéma est venu jouer le rôle de l'arme qu'il fallait. Vous savez, j'ai étudié en 86, 87, tous les cinémas documentaires de quelqu'un qui s'appelle Jean Desmes. Jean Desmes, c'était le plus grand réalisateur de documentaires à cette époque-là. Et il tournait dans la région de Lubangui, ici, au nord de notre pays. Et il demandait aux gens dans un village de jouer aux cannibales. Alors, il fabriquait une grande marmite en terre, et puis on mettait quelqu'un dedans, il filmait tout ça, il s'amusait bien. Et quand c'était montré en Europe, on disait, regardez, ce sont des cannibales. Il faut aller porter la lumière de Dieu. Mais l'Europe ne nous a pas amené Dieu. L'Europe nous a amené l'enfer.
Combien de films à votre actif, Baloufou?
Une dizaine, j'ai produit aussi.
Une dizaine de films, ouais. Qui sont diffusés en Europe.
Dans le monde entier. Films passent ici. Canal Plus a diffusé il n'y a pas longtemps de mes
films.
Plus,
il faut avoir un décodeur pour
Ah, mais vous savez, dans un pays où il y a un décodeur, les autorités doivent s'interroger. Nous avons une télévision nationale. est-elle de qualité? Cette télévision, elle est sur le satellite. Pourquoi? A-t-elle des contenus? Produit-elle? Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, vous regardez la RTLC, vous avez envie de vous tuer.
Mais est-ce que vous avez proposé vos
Mais vous croyez que je traverse mon pays que j'aime beaucoup sans me soucier de tout cela? Non, non, j'aime profondément mon pays et chaque fois, chaque pas que je fais ailleurs, chaque chose bonne que je vois, je voudrais la ramener chez moi. Je voudrais la faire partager avec mon peuple. Non, non, je suis profondément congolais. Donc je pense que nous avons droit à des meilleures choses, comme partout. Nous avons droit à une télévision qui produit du contenu, une télévision qui est notre vitrine à l'extérieur. J'en ai parlé avec les gens du cabinet du ministre. Nous devons produire. Nous devons produire notre propre image.
Parmi les documentaires que vous avez réalisés, il y a Thomas Sankara.
Oui, ouais, il y a Thomas Sankara qui est le portrait.
Pourquoi lui? C'est quelqu'un qui vous a marqué, qui a marqué votre vie?
Mais c'est la famille de Lumumba. C'est un Lumumba, c'est un Christ. Vous savez, Lumumba, Kimbangu, Thomas Sankara, ce sont des figures christiques. Hein. C'est des gens qui sont venus pour libérer les Africains de leur aliénation coloniale. Donc, il a fallu. Vous savez, ces films, faire ces films, ça n'a pas été ma décision personnelle, ça a été une décision collective de mes camarades cinéastes, dont John Akonfra, qui est Ghanéen, qui vit à Londres, qui est le documentariste le plus brillant qui existe au monde, et June Divani, qui est de Guyana, de la Guyane anglaise, qui vit aussi à Londres, qui était à la BFI à l'époque, et de Channel 4 Television, qui était la grande télévision anglaise de l'époque. Donc, moi, mes camarades et moi, on est assez touchés et concernés par des questions de mémoire. Nos peuples oublient si vite. Donc, il a fallu très vite penser à faire un film, un portrait subjectif, avec toute la mauvaise foi possible, hein, parce que quand on aime quelqu'un, il faut y mettre de la mauvaise foi quand on parle de lui, mais en bien. Donc, on a fait ça parce que, comme je vous disais, moi, je suis devenu cinéaste pour parler du Congo d'abord, de l'Afrique
après,
mais surtout, mon but, ce serait de produire une série documentaire, enfin une série fiction sur Simon Kimbangu, et une série sur Patrice Lumumba, une série sur Moïse Kabila, une série sur des grandes figures.
Ça, ce sont des projets.
Oui, oui, mais le cinéma procède de l'utopie, le cinéma existentialiste. Hein, il faut rêver pour faire.
Je vous dis que vous avez fait le cinéma pour le Congo d'abord, mais je crois qu'il fallait commencer d'abord par parler de Lumumba avant de parler de Thomas Sankara.
Mais j'ai déjà parlé de Lumumba. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Attention, les choses ne se passent pas comme ça. Un film peut venir à la place d'un autre. C'est quand vous dites un film, vous dites 10 000 dollars ou 10 000 euros la minute de fabrication. C'est pas une mince affaire. Hein, je vous parle pas de faire de l'image, je vous parle de faire du cinéma. Hein, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et quelquefois, comme sur le Sankara, on avait la volonté et l'argent est arrivé le même jour par Channel 4 Television. Donc c'est Channel 4 qui a payé le film à 100%. Donc voilà, mais sur Lumumba, il nous faut de l'argent du Congo. Parce que si nous allons chercher l'argent ailleurs, les ailleurs vont aussi nous demander de dire ce que l'ailleurs pense. Mm-hmm. Hein? Donc faire un film sur Simon Kimbangu, faire un film sur Lumumba, c'est notre problème congolais. C'est notre histoire. Nous devons la raconter avec nos moyens, pas avec un crayon prêté. D'ailleurs, dans les Sankara, j'ai dit cette phrase, je vous raconte le peu de mon histoire avec un crayon prêté, parce que c'était aussi l'argent des Anglais. Hein? Donc, Lumumba, c'est notre affaire. Simon Kimbangu, c'est notre affaire. Hein? Vous savez.
Donc, la RDC doit s'impliquer, le gouvernement doit s'impliquer dans
notre pays doit se réaliser. Oui, c'est notre histoire. Notre pays doit s'impliquer. Je vous dis que la RTNC ne produit pas. Voilà les sujets qu'il faut produire. Mais les produire d'une façon professionnelle. Très bien, et ça puisse aussi voyager. Si nous le produisons professionnellement bien, les autres pays vont acheter ces séries pour les montrer. Parce que Lumumba est une cause, Lumumba est une figure mondiale. C'est l'homme le plus connu au monde, Lumumba, Patrice. C'est notre fierté. Hein? Et nous avons Kimbangu. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, je suis resté congolais. J'ai voyagé le monde entier. J'ai fait le monde entier. J'ai pas trouvé Kimbangu là-bas. J'ai pas trouvé Lumumba. J'ai pas trouvé mieux que le Congo. Et quand j'arrive en Djili avec mon passeport, je reviens ici parfois juste pour prendre un passeport, parce que j'en ai besoin d'un chaque année. Quand j'arrive en Djili, je suis à l'endroit où je me sens le mieux en sécurité, parce que je suis chez moi.
C'est vrai, on dit souvent...
quatre siècles de vie en étant étranger.
On se sent plus à l'aise chez soi, plutôt qu'à l'étranger, ou ailleurs, chez les voisins.
Un jour, je remplis le papier de débarquement, et j'ai écrit, sur ces papiers, c'est écrit « motif du voyage ». Et puis j'ai écrit « retour à la maison ». Le douanier, il m'a dit « c'est pas correct ». Mais je dis « vous êtes devant ma porte ». Moi, je reviens à la maison. Donc, moi, je suis fier de mon pays. C'est un grand pays.
Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Baloufou, vous dites que vous revenez souvent ici pour encadrer, former les jeunes.
Transmettre
votre savoir aux jeunes.
Ouais.
Ceux qui aspirent à devenir cinéastes comme vous.
Je viens leur donner leur dû. Ce qui leur est de droit. Ce qu'ils m'ont formé.
Moyennant quelque chose.
Non.
Non, c'est gratuit.
Non, c'est gratuit. Parce que, vous savez, moi j'ai beaucoup reçu. J'ai été formé, j'ai porté un serment de transmettre. Hein. Ceux qui m'ont formé ont ces soucis-là. Vous savez, quand on porte un serment, hein, tu vois, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Tchakato Amatala Mukadi, notre grand poète, qui est mort, enterré ici à Massina dans l'anonymat, mais le plus grand poète de toute l'Afrique. Après Césaire, c'est Tchakato Amatala Mukadi. Et il dit dans un de ses poèmes, Manzambi, il dit... Si je trahis cette terre, terre congolaise, terre africaine, que la foudre et le feu pulvérisent mes os. C'est, nous avons les plus grands poètes. Il est enterré anonymement dans ce pays. Il a écrit un seul recueil, Réveil dans un nid en flammes, publié chez Segers en 69. Et moi, j'ai fait un film dans lequel joue Jean Goubald, mon premier film tourné dans ce pays, qui s'appelle « Nous aussi avons marché sur la lune ».
Sur la lune, oui.
Et Jean Goubald joue le rôle de l'enseignant qui transmet de la poésie aux enfants. Et quand nous avons tourné ce film, le ministre de la Culture de l'époque, Monsieur Kambal, est venu, c'était très bien d'avoir une visite ministérielle sur un tournage, et il a demandé aux élèves, qui est le ministre de la Culture de ce pays ? Eh ben,
Il était en face.
Oui, il était là en face. Et quand on est sorti après le tournage, on avait une heure de retard, donc je suis sorti pour m'excuser auprès des parents qui attendaient les enfants. Une maman est venue vers moi, elle était émue, elle m'a dit, mais je ne connais pas ces poètes. J'ai dit, mais madame, vous êtes qui ? Elle m'a dit, je suis professeur de littérature à l'UPN, professeur de littérature, de lettres. Elle m'a dit, mon fils m'a amené à la maison un poète congolais, et c'était Tchakato Amatala Mukadi. Voyez-vous ? Parce que ce gamin est allé chez lui à la maison, il a demandé à sa maman de lui faire répéter son poème.
Alors, c'est pour dire qu'on a des grands talents dans ce pays, mais qui sont négligés.
Tchakato Amatala Mukadi est enterré anonymement dans une cimetière de Kinshasa, mais si vous citez les noms de Tchakato Amatala Mukadi dans le monde, on vous prend pour un érudit. C'est le plus grand poète après Césaire.
Puisque vous dites que cette formation est gratuite, ceux qui sont intéressés, par exemple, à venir suivre la formation, comment ils doivent procéder ?
Ils m'envoient un email.
À quelle adresse ?
Bakupa, Bakupa point Kanyinda, Kanyinda, @gmail.com, où ils peuvent aussi mettre Société du Film du Congo, en un seul mot, Société du Film du Congo, @gmail.com. Mais ils doivent avoir quatre choses. Qu'on n'achète ni dans le commerce et qu'aucune école du monde n'enseigne.
Alors c'est quoi ces quatre choses ?
Le talent, la créativité, la passion et la foi en soi.
Merci beaucoup Baloufou, c'était vraiment un plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à tous ces auditeurs de Radio Okapi que nous suivons en ce moment. Certains, je vais vous le dire sincèrement, hein, certains pensaient que vous étiez même décédé parce qu'on n'entendait plus parler de vous.
Mais c'est très bien, c'est une façon de me souhaiter longue vie. Mais non, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec mes camarades ici, mes jeunes camarades, cinéastes, mes collègues. Nous avons beaucoup de choses à faire, on n'a pas encore fait la série sur Lumumba, on n'a pas encore fait la série sur Kimbangu, on n'a pas encore revisité Musée Kabila. Mais surtout, vous savez, Harry Belafonte et Martin Scorsese vont faire une série sur Leopold II, sur les crimes de Leopold II. Mais ça va encore nous motiver, nous, parce qu'après Leopold, nous pouvons parler de Kimbangu et de Lumumba. Mais nous sommes prêts. Vous savez, Lumumba disait « L'avenir du Congo est beau ». Je pense que pour tout Congolais sain d'esprit aimant son pays, il y a deux choses à visiter. Revisiter les écrits de Lumumba, réécouter bien son discours du 30 juin, qui est un discours fabuleux. Fabuleux. Déjà, commencer par Congolaise, pas par Congolais. Congolaise et Congolais, ça, c'était formidable. Et surtout, réanalyser et comprendre les débuts congolais.
Merci, Baloufou. C'était, je le répète encore, c'était un plaisir, en tout cas pour moi, de vous avoir dans cette émission.
Je vous remercie beaucoup. Moi, je suis ravi de communiquer. Voilà, je suis là, je suis bien vivant. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis en tournage actuellement. Je suis presque sur deux tournages. Et là, je suis aussi en train de documenter mon pays, donc de participer à l'élaboration de la nouvelle image de mon pays.
Merci, voilà. Merci beaucoup, Baloufou. Je rappelle à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment que je recevais Baloufou Bakupa Kaninda, qui est poète, cinéaste congolais. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la technique, au micro Kélin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.